notamment Latif, Abdou Latif Koulibaly et puis Yerim Seck, c'était d'un très, très haut niveau. En revanche, là, c'était frappant. Le discours de Idrissa n'était pas intelligible. J'ai retenu une chose, il veut reprendre un parti en désarroi, le PDS. C'est une démarche rationnelle, mais tout le discours pour justifier cette tentative de reprise n'était pas intelligible. Non, là, maintenant, c'est rationnel. Un membre, un politicien qui veut prendre en charge un parti en désarroi, ça se comprend. Mais ça me pose deux problèmes. Le premier, c'est que ce parti est au bord de l'implosion. Est-ce que son intervention va permettre d'arrêter le processus ou ça va le précipiter? Ça, on va voir. La deuxième chose, c'est la doctrine même libérale. C'est-à-dire, nous vivons dans un pays qui a un niveau de développement où, justement, l'essentiel de nos activités consiste à exporter des produits qui ne sont pas traités. Donc, nous nous devons d'ajouter de la valeur. Et franchement, il n'y a aucune doctrine libérale qui est menée à ça. Regardez par exemple les pays qu'on dit émergents en ce moment, que ce soit la Chine, le Brésil, l'Inde, la Turquie. Donnez-moi un seul pays qui applique des recettes libérales, c'est-à-dire la dérégulation de l'économie, la libéralisation de l'économie. On a vu où ça nous a mené.
Mais pourquoi dites-vous que le discours de SEC n'est pas intelligible pour vous?
Mais il n'était pas intelligible pour moi parce qu'il justifiait la façon dont selon laquelle il justifiait son retour, le fait qu'il ne soit pas prononcé sur ce qui a remué qui a été le détonateur ici, le ticket, la révision de la Constitution, son silence, comment il a justifié ce silence, comment il veut reprendre le PDS, comment il le justifie. Mais tu veux reprendre le PDS, tu te positionnes comme le quatrième futur candidat président du pays, alors que tu reconnais, le chef de ce parti reconnaît lui-même qu'il ne peut pas bénéficier de plus de 25% de l'électorat, qu'il veut régner sur les trois quarts de la population. Et même moi, je trouve que ce chiffre de 25%, ça peut être très, très, très optimiste. Moi, ce que je constate, le désaveu, la désaffection, c'est pas tout à fait sûr. C'est pourquoi moi, je voudrais pas du tout risquer la paix et la stabilité du pays. Il n'y a qu'à le laisser aller de l'avant. Je ne pense pas, s'il se présentait aujourd'hui, qu'il recouvrerait 25%. Donc, quelqu'un qui a l'ambition de bâtir, de devenir le quatrième président, qui a son propre parti, au lieu de consolider en ça, d'essayer de débaucher d'autres, vous revenez à un parti qui absolument n'a absolument aucune chance. Et c'est une bonne chose parce que nous traversons une période économique où les politiques que nous devons faire, dont les idées, la charpente a été articulée, les idées, la charpente ont été articulées dans les programmes des assises. Il s'agit maintenant de décliner ces idées en termes de stratégie, de projet, de programme. Hein? Il dit qu'il adhère à certaines de ces idées, mais c'est sous le mode libéral qu'il veut les appliquer. Alors qu'on voit que même les pays qui font profession de foi libérale, comme par exemple les États-Unis, mais ces pays ne sont libéraux que quand ils ont un avantage comparé. Chaque fois que l'avantage ne leur est pas favorable, d'ailleurs, Diouf aura l'occasion de vous en parler tout à l'heure, c'est un spécialiste des négociations, mais ces gens-là ont recours à la subvention, à la protection de leurs industries créées. Et tous les pays qui sont en ce moment émergents, c'est ce qu'ils font. Et tu ne trouves que là où tu es compétitif. Donc, mais quand bien même Idrissa arriverait à rassembler à nouveau, repartir sur un bon pied, même quand bien même il aurait des chances, je doute que les politiques libérales soient les politiques qu'il nous faut.
Abdourahmane Diouf Sanoumbaye ne semble pas être convaincu par la sortie de Idrissa Seck. Pour lui, Idrissa Seck n'a pas pu convaincre le Sénégalais.
Alors, merci beaucoup Alassane, merci, bonjour aussi aux auditeurs de la FM. Je me dois de le faire parce que c'est la première fois que je participe à cette importante émission.
Vous êtes bienvenue.
Contrairement à ce que dit le doyen Sanou, j'ai trouvé que Idrissa Seck, dans son discours au peuple sénégalais, a été d'abord cohérent avec lui-même. Il a aussi été cohérent avec sa stratégie de conquête du pouvoir et il a été aussi cohérent avec les revendications ambiantes du peuple sénégalais en ce moment. Je vous explique. Il est cohérent avec lui-même parce que quoi qu'on puisse en penser, c'est quelqu'un qu'on connaît dans la famille libérale, qui y est resté et qui a toujours revendiqué qu'il va s'appuyer sur la famille libérale pour aller à la conquête du pouvoir. Il est parti, il est revenu, mais ce ne sont pas des va-et-vient classiques, c'est des partis parce qu'on l'a tout simplement exclu du régime libéral. Donc il est cohérent par rapport avec lui-même. Il est cohérent par rapport à sa stratégie de conquête du pouvoir. Parce que l'analyse nous montre que dans un pays comme le Sénégal, il est extrêmement difficile de gagner une élection présidentielle sans s'appuyer sur un parti politique. D'où la question, par exemple, des candidatures émergentes qui sortent en ce moment. Si vous permettez, j'ai fait une petite analyse sur la question. Sur les 30 dernières années, les Sénégalais ont voté pour 5 élections présidentielles. 83, 88, 93, 2000 et 2007. 83, 88, nous n'avons pas eu de candidat indépendant. On en a eu pour la première fois en 93. C'était le candidat Mamadou Lo. À l'époque, il avait fait 0,85%. Lors des dernières élections présidentielles, sur les 15 candidats, 5 étaient des candidats indépendants. Donc le tiers des candidats qui pouvaient peut-être prétendre à avoir un tiers de l'électorat. Sur ces 5 candidats indépendants, le mieux placé, c'était Mamadou Lamine Diallo de Tekki. Il est passé avec 0,48% de l'électorat. Et si on met ensemble les suffrages dont ont bénéficié ces 5 candidats, c'est 1,51% du suffrage des Sénégalais. Donc 15 candidats, et sur les 15 candidats, ceux qui sont adossés à des appareils politiques prennent 99% des voix.
Mais ça, c'est en 2007, on est en 2011 là. Mm-hmm. Est-ce que le contexte n'a pas changé entre-temps?
Je pense que de ce point de vue, le contexte n'a pas changé parce que le système politique sénégalais, la culture sénégalaise est politique sénégalaise est faite de telle sorte que les gens croient beaucoup en ce qu'on appelle l'attractivité de la position de pouvoir. Il faut être dans un parti ou avoir été dans un parti. Il faut avoir déjà eu des strapontins. Il faut avoir fait du social à travers ces strapontins politiques. Les gens, un petit au yakar, comme on dit, pour pouvoir continuer à vous faire confiance.
Mais est-ce que les va-et-vient entre lui, Abdoulaye Wade, ses audiences de midi, entre autres, et ensuite les grands moments où le Sénégal vit des moments historiques, où il est tout le temps absent, ne lui a pas porté préjudice?
On peut en dire deux choses. La première, c'est lors des élections de 2005. On a parlé des audiences du midi. Je rappelle que les audiences du midi, c'était un mois avant l'élection présidentielle. Donc, quand Idrissa a fait ses audiences, effectivement, il y a eu un dépit amoureux. Il y en a beaucoup qui lui en ont voulu. Il a perdu une partie de l'électorat. Je fais même partie de ceux qui pensent que sans ces audiences du midi, il était possible que les élections de 2007 se passent autrement. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'Idrissa Seck est parti aux élections en 2007, mais vraiment au moment où il était au plus bas dans l'estime de certains Sénégalais qui lui reprochaient d'être allé aux audiences du midi. Mais comment peut-être aussi bas dans l'estime des Sénégalais être quand même arrivé deuxième d'une élection? La deuxième partie de votre question qui est par rapport à ce qui se passe actuellement, on lui a beaucoup reproché de n'avoir pas été là le jour du 23 juin. On peut poser un débat là-dessus. Je disais à des amis hier que le 23 juin, il fallait soit manifester ou bien se manifester. Il ne s'est pas manifesté, il n'a pas manifesté auprès des jeunes de Yanamar, mais qu'est-ce qu'il faut en conclure? La lecture qu'il a donnée lors de sa conférence de presse, c'est de dire, premièrement, le 23 juin, c'était un jour de rassemblement contre la dévolution monarchique. Je travaille contre la dévolution monarchique depuis 2004, donc c'est un chantier qu'il a contribué à bâtir. Et on a parlé de l'invalidation de la candidature de Wade. Il a été le premier à l'opposer au niveau de la famille libérale à être exclu. On a parlé du ticket présidentiel. Mais c'est très intéressant le ticket présidentiel par rapport à toutes les supputations qu'on a. Un candidat comme Idrissa, soit il allait dans le ticket présidentiel comme premier. S'il est allé comme premier, le second, c'est-à-dire le présumé bénéficiaire du colistier, tout le monde le connaît. Est-ce que Idrissa est aussi malhabile politiquement pour aller s'acoquiner avec ce présumé colistier et avoir la sanction des Sénégalais?
Il pourrait aussi y avoir un ticket au Wade.
Voilà, ça c'est la deuxième hypothèse. Idrissa pouvait être le second, mais comment on peut être le second de quelqu'un dont on dit qu'il n'est pas apte à être candidat à la présidence de la République? Donc je pense qu'au-delà de toutes les supputations politiques, si on fait une analyse logique, il y a une certaine façon de cohérence dans son démarche. Maintenant, c'est aux Sénégalais d'apprécier. Il se trouve que la dernière fois qu'on a compté les hommes politiques sénégalais, c'était en 2007. On attendra de voir ce que tout cela donne. Mais au moins, dans sa logique à lui, stratégie de communication, stratégie de conquête du pouvoir, participation au combat pour le peuple sénégalais, parce que je précise que ce 23 juin-là, ce n'est pas un point en soi, c'est une date importante, mais c'était le point culminant de processus de combat qui a commencé depuis 2004.
Oui, Sanou Mbaye, les gens reprochent à Idrissa que quand il y a des grands moments, ici au Sénégal, il est tout le temps absent.
Ça, moi, je ne saurais dire. Hein. La seule chose, c'est que ce que je peux dire, c'est que la politique telle que ça se fait, dans cette perspective-là, on pense en conjoncture, en ticket, Idriss Seck par rapport à Wade père ou par rapport à Wade fils. Tout ça procède d'une politique, justement, qui fait partie des nostalgies de changement. Ce mouvement du 23 juin est le déclencheur, on l'espère, de changement, une autre manière de faire la politique.
Il y a même notre confrère Cheikh Yérim Seck qui a écrit dans un article qu'Abdoulaye Wade penserait à Khalifa Sall.
Oui.
Même si Ousmane Tandor Diagne dit que c'est impensable.
C'est impensable, mais bon, depuis que l'alternance s'est installée ici, on a vu tellement de choses, tellement de transfuses, comme on les appelle. Hein, la politique est devenue tellement d'un niveau tellement bas au Sénégal que tout est possible. Tout est possible. Mais enfin, dans cette perspective-là, il faut quand même reconnaître que le seul parti qu'on peut appeler un parti d'opposition au Sénégal en ce moment, ça a été quand même le Parti Socialiste. Depuis 2000, ils ont montré une capacité d'organisation, de survie. Ça, il faut le reconnaître. Sinon, tous les autres ont frayé avec le pouvoir en place. Et franchement, il est incontestable qu'il dise il n'y a qu'à voir. Les mois qu'il a créé, la présence de la presse nationale, internationale, les gens qui lui sont fidèles, c'est une dimension politique dans ce pays. Il faut tenir compte de cette dimension-là, incontestablement, quand on parle. Et ce qui m'a aussi, non seulement ce que je disais, que le débat s'est élevé. Le débat est élevé, mais aussi dans un monde où le politique est si discrédité, dans un monde où dans un pays, ce qu'on appelle les gens qui ont une statut d'homme d'État sont si rares, il faut voir la palette de chefs d'État possibles, d'hommes d'État possibles au Sénégal qu'on a. On a vu Ibrahim Fall, sa présentation a décanté les choses, il a projeté une image qui répond à la nostalgie des gens, quoi, de décence, de compétence, de sérénité. Bon, après, on a assisté à TFM, à Tanor, aux échanges entre Tanor, on a vu Macky Sall, on a vu Ignace. C'est vraiment d'un très haut niveau et on espère à partir de maintenant vraiment inaugurer une nouvelle ère.
Vous avez parlé tantôt d'Ibrahim Fall et des candidatures indépendantes. Oui. Mais M. Diouf disait tantôt qu'au Sénégal, il est très difficile que des candidatures indépendantes puissent émerger. Parce que d'après ses analyses, depuis que Mamadou Lo est entré dans la danse, jusqu'à présent, si on totalise les pourcentages qu'ont eu à faire ces candidats indépendants, ils ne font pas 0,5%.
Oui.
Au Sénégal, c'est les gens votent pour des appareils politiques.
Absolument, et puis c'est très important, c'est un gros handicap de ne pas avoir un parti politique, de ne pas pouvoir s'adosser, parce qu'il faut couvrir quand même le territoire, ça c'est incontestablement. Mais il se trouve que ça se passe dans un contexte, ce qu'il faut c'est occuper le terrain, avoir des comités d'action. Et cette culture politique du Sénégal, nous ne la changerons pas également non plus, tant qu'il faudra venir quelque part, il faut avoir des pléthores de voitures, il faut avoir un argent fou pour pouvoir être candidat. Il est temps aussi de donner la chance à ces indépendants de couvrir, parce qu'avec l'ère de nouvelles technologies...
Est-ce que vous pensez que la mentalité des Sénégalais est arrivée à une maturation qui fait que les gens peuvent choisir les gens par rapport à leur programme, par rapport à ce qu'ils représentent, pas par rapport à l'appareil politique ou bien à l'argent qu'ils mettent dans la campagne?
Mais justement, c'est là où, franchement, après avoir été tellement embarrassé, tellement soucié de pourquoi le Sénégal ne réagissait pas, pourquoi un pays qui a une telle maturité politique, dont les populations ont une telle maturité politique, était encore là à ne pas bouger face à des abus d'un pouvoir, des abus colossaux. Mais en fait, l'explication, c'était quoi? C'est que ici, la démocratie a toujours régné. Ici, la possibilité de pouvoir s'exprimer librement n'a jamais été limitée. Alors ça jouait comme une soupape de sécurité. On discute, et on attend les prochaines échéances électorales. Alors, j'espère de tout cœur que ici il y aura un déclic, c'est-à-dire quand on parle de révolution, c'est-à-dire on a besoin de transformation radicale. Et s'il y a un peuple qui a besoin de transformation radicale, aussi bien dans ses mœurs, sa manière de penser, sa manière de gouverner, c'est bien nous. Et j'espère que vraiment ce sera une occasion. Et une manière de faire ces transformations radicales, c'est de s'appuyer sur les technologies modernes, de s'appuyer sur la maturité de cet électorat sénégalais pour venir leur vendre autre chose, parce qu'en fin de compte, il faudra bien venir se présenter avec un programme. Hein? Les assises nationales, ce sont des idées. Il faut maintenant articuler ça, trouver des programmes. Et le programme, avant même de parler d'un programme transitaire, parce que là aussi la question devra être décantée, on parle d'un programme 5 ans, parce que le délai, ce sera de 5 ans. Mais j'estime que toute administration qui viendra devra, dans le contexte de ce programme, que ce soit un programme transitoire de 3, j'arrive pas à le justifier, ou de 5 ans, mais dans le cadre de ce programme, commencer par proposer aux Sénégalais, dans ce contexte-là, un programme pour les 100 premiers jours, pour s'adresser vraiment aux problèmes sociaux. C'est l'électricité, c'est le coût de la vie, c'est l'éducation, la santé. On ne peut pas résoudre les problèmes au bout de 100 jours, mais au bout de 100 jours, on peut fixer envoyer des signaux forts à l'électorat. Donc c'est tout ça qui procède d'une manière de faire différente que j'appelle qui nécessite une révolution dans les pratiques. Et franchement, la manière de Idrissa Seck, Wade, c'est toujours cette culture politique du wadisme. Et il y en a, franchement, il y en a marre.
Mais Abdrahmane Diouf, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, que la maturité des Sénégalais est telle qu'ils peuvent voter pour un programme de quelqu'un, pour ce que la personne représente, pas pour son argent? Parce qu'on constate que l'argent a une forte prégnance dans les mœurs politiques.
Je crois que de ce point de vue, Alassane, la question est très, très, très complexe. Parce que moi, je constate un décalage, en fait, entre le discours politique du microcosme politique sénégalais et la réalité du peuple sénégalais. Parce qu'en fin de compte, qui est-ce qui demande les programmes en période de campagne électorale? Ce sont ce qu'on appelle les intellectuels, les technocrates, qui, je le précise bien, en bon droit, ont le droit de demander aux candidats ce qu'ils ont l'intention de faire pour le pays. Mais ces technocrates-là, encore une fois, c'est un petit microcosme politique, ce n'est pas la majorité et ce ne sont pas eux qui vont élire le futur président. Pour le reste, et là ça me permettra d'entrer dans le débat sur le libéralisme et le socialisme, quelle peut être la différence au niveau du programme entre un candidat du Parti démocratique sénégalais et un candidat du Parti socialiste? Outre le fait qu'il faudra écrire un beau programme pour les intellectuels. Le reste, c'est quoi? Le peuple a besoin d'électricité. Le peuple a besoin d'avoir accès aux soins de santé primaires. Le peuple a besoin de sortir des inondations. Le peuple a besoin d'eau. Tout simplement, je ne vois pas quelle est la déclinaison qu'on pourrait faire sur ces programmes au Sénégal entre les libéraux et les socialistes. Le peuple a une même attente. Et je pense que dans un pays comme le Sénégal ou en Afrique de façon générale, on est très très loin de ces clivages idéologiques. Prenez aujourd'hui le gouvernement libéral. Le gouvernement libéral de Wade dont vous parlez, d'Idrissa Seck, de Macky Sall, de Souleymane Déné, etc. Quelle est sa différence par rapport à ce que le régime socialiste nous a fait connaître? Je précise que tous les services publics du Sénégal ont été libéralisés à l'époque du Parti socialiste. Et c'était une pire libéralisation, parce qu'on avait les programmes d'ajustement structurel. Les FMI et la Banque mondiale viennent vous dire « moins d'État, mieux d'État ». L'État ne doit pas s'impliquer. Vous êtes défaillant, vous n'avez pas les moyens, laissez au secteur privé le soin de réguler. Mais nos autorités politiques socialistes à l'époque avaient non seulement privatisé, mais ils avaient privatisé sans vraiment libéraliser. Et on était passé de monopole public, ce qui se conçoit, un service public peut-être exclusivement géré par un État. Mais on est passé de monopole public à des monopoles privés. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour une économie que d'avoir un monopole privé? Le consommateur n'a pas le choix. Et ça, c'est une politique du Parti socialiste. On nous dira maintenant que cela a été fait sous l'égide de la Banque mondiale ou du FMI. On pourra nous dire que cela a été fait sous l'égide de l'OMC. Qu'est-ce que cela change aujourd'hui par rapport au régime actuel? Et je pense que cette question de programme-là, on devrait y réfléchir. À mon avis, il y a un programme commun. C'est un bien commun national. Et heureusement pour le Sénégal, tous les aspects importants de ce programme se retrouvent aujourd'hui dans les conclusions des assises nationales. Tout. La seule différence qu'il existera, c'est quel est le positionnement politique. Macky va vouloir épuiser, Idrissa va épuiser, même Wade, consciemment ou inconsciemment, va épuiser. Parce que des hommes intelligents sénégalais, intègres, très bien formés, ont pris le temps de réfléchir à ces questions et de nous donner un document, mais d'une qualité exceptionnelle. Maintenant, qui va se l'approprier ? Je pense que pour des raisons de stratégie politique, ils vont tous se l'approprier, naturellement. Je voudrais dire un mot sur le niveau bas des hommes politiques. Le débat politique au Sénégal. À qui la faute ? À qui la faute ? La réflexion que je mène depuis un certain temps m'amène à la conclusion, je n'invente rien, je pense que c'est Aristote qui disait « Si vous ne faites pas la politique vous fait ». Ma génération et les générations qui nous ont procédé ont toujours pensé qu'il s'agissait d'être brillant, d'avoir de bons diplômes, un bon salaire, une voiture, une villa et ne pas se préoccuper du reste. Ça, c'est l'attitude, ce que j'appelle une sorte de république des technocrates ou bien une société civile du dégoût. Parce qu'on est suffisamment bien dans sa trajectoire personnelle. On pense que les autres de l'autre côté sont des voleurs, que ce sont des tripatouilleurs, qu'ils sont moins imbus de vertus que nous et on les laisse faire. Mais le résultat, vous le connaissez. Le résultat, c'est que ce ne sont pas forcément les meilleurs en compétences et en vertus qui dirigent le pays. La faute à qui ? La faute à qui ? Je pense que, en tout cas, nous, notre génération, devrait prendre conscience du fait qu'on peut à la fois être un technocrate, un brillant intellectuel, être intéressé à ce qui se passe dans son pays et aller demander aux Sénégalais leur suffrage. Le meilleur profil politique sénégalais des prochaines années, c'est celui-ci qui est très bien formé, qui comprend les enjeux, mais qui n'a pas le complexe non plus de descendre dans la rue, aller au marché, discuter avec les gens, comprendre leurs préoccupations, transformer tout cela en un projet de société à donner au peuple sénégalais qui le mérite.
Je rappelle que vous suivez Rémi Ménage qui reçoit Sanou Mbaye qui est expert fiscal et ensuite économiste. Ensuite, on reçoit aussi Abdrahmane Diouf qui est expert en médias, en communication aussi, et aussi expert en relations internationales. Monsieur Sanou Mbaye, aujourd'hui, il y a eu le mouvement du 23 juin. Les choses ont été faites. Ablaye Wade garde encore le silence. Quel est l'avenir de ce mouvement du 23 juin?
Mais ça... Ça a été remarquable, hein, le mouvement du 23 juin, parce que ça se distingue des mouvements qu'on appelle les révolutions qui sont apparues, notamment en Afrique du Nord jusqu'à présent. Parce que là, il y avait, dans ces révolutions-là, il y avait une réaction spontanée de la jeunesse, là, qui était prise dans une sorte de détour, là. Et qui dit spontané, dit manque d'organisation, et après ça posait des problèmes énormes. Ici au Sénégal, c'est tout à fait différent, c'est-à-dire les politiques appelaient le public à manifester et le public ne se manifestait pas parce qu'il y avait cette désaffection du politique, quoi. Et puis là, quand le public a décidé de prendre dans la rue, parce que là le public composé en majorité de ces mêmes jeunes, parce que qui constituent jusqu'à 60%.
Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'après le 23 juin, et la société civile et les partis politiques sont réunis pour mettre en place le mouvement du 23 juin, les jeunes Yanamar ont pris leur distance vis-à-vis de ce mouvement en disant écoutez, nous ne sommes pas impliqués dans une démarche où les gens demandent le départ de Ablaye Wade. Ablaye Wade est candidat, Ablaye Wade doit ne pas être candidat selon eux. Oui. Il y a une démarcation entre ces jeunes-là et le mouvement du 23 juin.
Mais enfin, il y a quand même le mouvement du 23 juin. Après, ils se sont réunis. Et puis après, quand même, il y a eu ces trois points. Hein, pour la paix civile, on veut simplement que, premièrement, que Ablaye Wade fasse un remaniement ministériel dans lequel il y a quand même un point de discorde ici dans ce pays. Quoi. Son fils doit... il profitera de ce remaniement, non seulement pour se débarrasser de son fils, mais aussi pour mettre en place un ministre de l'Intérieur, comme par exemple le PS l'avait fait avec le général Nia, pour organiser des élections. Deuxièmement,
le général Cissé.
Mmh. Deuxièmement, de dire qu'il ne va pas se présenter. Et troisièmement, d'organiser donc de faire en sorte que les organisations des... Donc ce sont ces trois points-là. Maintenant, il s'agit de mettre un calendrier. Bon, nous avons demandé ça. Si vous ne le faites pas, voilà comment on va réagir pour essayer de l'avoir. Mais il faut que tout se fasse dans un cadre de paix. Donc, en fin de compte, je ne vois pas vraiment pas tellement de discorde sur ce plan-là. Et il y a un mouvement qui a été lancé le 23. Le mouvement a obtenu ce qu'il voulait, le retrait d'un projet de loi qui allait à l'encontre de ce que le peuple voulait. Et maintenant, ce papier étant rejeté, il faut continuer d'ici les élections, dans 8 mois. Donc, il y a ces 3 étapes qui ont été posées. On va suivre ces 3 étapes, voir comment ça va évoluer. Mais comme j'ai dit, là, il y a une conjonction parce que les jeunes n'avancent pas dans le vide. Il y a une convergence entre ce que l'opposition voulait et ce que les jeunes voulaient. Donc, il faut maintenir cette convergence, ne pas verser dans la désinformation, dans la désintoxication, et maintenir le cap, tout en sachant qu'aussi, il y a des options. Mettons que l'une des demandes, retirer votre candidature, ne soit pas faite. Mais il y a un conseil constitutionnel qui va décider de ça. Quand ce sera décidé, bon, est-ce que ça va à l'encontre de l'interprétation que donnent tous les constitutionnalistes ici, y compris Ismaël Major Fall, où donc on a l'essentiel, c'est d'avoir pour objectif, hein, ça a été remarquable, après le désabus, l'embarrassement, les gens ne comprenaient pas que l'image qu'on se faisait du Sénégal, de sa maturité politique, qui acceptait en attendant des choses qui étaient des abus de ses droits. Et maintenant, ce peuple a manifesté. En fin de compte, si on regarde ces parties de 3 étapes, il y a d'abord aussi le peuple s'est senti atteint dans sa dignité par ce qui s'est passé à Deauville. Et puis après, c'est Benghazi. Et Benghazi, il y a eu la 3e étape, hein, qui est arrivée pour l'introduction. Il s'est soulevé et ce mouvement est guidé. Et nous allons procéder toujours dans le même sens, c'est-à-dire faire tout dans la paix, mais il faut que le régime actuel parte, qu'il soit remplacé, mais que tout ça se passe dans le cadre de la démocratie.
Mais M. Diouf, est-ce que l'opposition et l'opinion publique sénégalaise n'est pas un peu, comment on appelle ça, surprise ou bien tétanisée par le silence d'Abdoulaye Wade? Après ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de prise de parole, il y a eu peut-être des informations qui sont sorties des réunions qui ont eu lieu au niveau du palais présidentiel, mais le président ne s'est pas adressé au Sénégalais.
Je ne sais pas si c'est une stratégie de communication. Si c'est une stratégie de communication, je ne crois pas que ce soit la bonne. Peut-être que c'est une réaction d'un leader politique, d'un président qui a été assez surpris, pour ne pas dire assommé, par le mouvement spontané qu'il y a eu. Et je profite de l'opportunité pour présenter vraiment mes vives félicitations et mes encouragements au mouvement Yanamar. Ils ont réussi à faire dans ce pays ce que les plus brillants intellectuels n'ont pas fait, ce que les hommes politiques n'ont pas fait. Ils ont réussi à conceptualiser le ras-de-bol général à travers un concept qui se vend très très facilement. Et quand vous lisez les déclarations de Yanamar, vous vous rendez compte que ce ne sont pas seulement des jeunes rappeurs égarés qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Il y a une vraie réflexion. L'un des slogans de Yanamar, c'est de dire « Yanamar de rester seul à critiquer sans prendre des initiatives. » Je pense que ce sont des jeunes engagés. Ils ont eu l'avantage de pouvoir mobiliser au-delà des clivages politiques classiques de Benon ou bien de libéralisme ou socialisme, etc. Et je pense que principalement, le mérite revient. Deuxième point, c'est le mouvement « Touche pas à ma constitution » qui est en train de se fondre dans le mouvement du 23 juin. Je trouve que là aussi que c'est très très intéressant. Parce que finalement, les Sénégalais avaient perdu l'habitude de manifester. Certains pensaient même que c'était devenu un peuple passif. Non, je ne crois pas que ce soit un peuple passif. Parce qu'on a expérimenté en 2000 et en 2009 la possibilité de faire changer les choses à travers notre carte d'électeur. Si vous savez que vous avez des échéances régulières qui vous permettent d'exprimer votre vote. Parce que le vote, c'est un choix citoyen, mais quelquefois aussi, le vote, c'est un défouloir. Vous sortez votre trop-plein de frustration. Les votes sanctions, on les connaît. Et cela permet à un citoyen de pouvoir s'exprimer correctement. Pourquoi vous allez vous faire massacrer dans la rue avec des grenades lacrymogènes si vous savez que dans une échéance de 8 mois, vous avez la possibilité de changer les choses? Maintenant, qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que les Sénégalais se retrouvent dans la rue? C'est qu'on était en train de leur prendre la seule prérogative vraiment citoyenne qui leur restait. Vous les mettez dans des inondations, ils ne bronchent pas. Vous délestez l'électricité, ils ne bronchent pas. Ils n'ont pas accès aux soins de santé, ils ne bronchent pas. Mais le jour où vous voulez leur prendre la dernière opportunité citoyenne de choisir eux-mêmes leurs dirigeants, alors là, ils sortent dans la rue. Et cette violence-là, Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une forme de violence légitime, mais c'est la revendication d'un peuple qui a envie de reprendre son bien.
Mais quelles sont les perspectives justement de cette violence, entre guillemets, de ce peuple qui demande à reprendre ses prérogatives? Parce qu'on a l'impression que depuis que ça s'est passé, que les choses semblent revenir à l'état. On est dans une situation où le président garde le silence. Au niveau de là-bas, il y a une sorte d'observation en chien de faïence.
Je précise, c'est très important, que quand je parle de violence, je ne cautionne certainement pas les violences qu'il y a eu, par exemple, le 27 juin pour les délestages. Je pense que nous sommes tous des citoyens responsables. Ce sont des choses à condamner. Mmh. Même si vous avez un adversaire politique, ce n'est pas un ennemi politique. Mmh. Ces occasions-là ne doivent pas être des opportunités de régler des comptes. Mais pour revenir à votre question, je pense que ces jeunes-là sont matures. Moi, j'ai été agréablement surpris quand je leur ai entendu dire que leur dégage, le dégage qu'ils disent, n'a pas la même connotation politique que le dégage de la classe politique. Parce que la classe politique aurait bien aimé, au-delà des échéances de février 2012, de pouvoir faire partir Ablaye Wade dans les deux jours s'il pouvait. C'est normal, ils sont dans une stratégie de conquête du pouvoir. Qu'ils l'obtiennent par la rue ou qu'ils l'obtiennent par les urnes, ça leur est égal. Le mouvement Yanamar a eu la maturité de dire que mon dégage s'inscrit dans un cadre légal de respect de la constitution de mon pays et que mon combat, c'est de faire en sorte que M. Wade ne soit pas candidat. Maintenant, 26 février, 18 mars, le meilleur devra gagner. Je voudrais ajouter par rapport à ça, parce que je l'ai lu aussi dans les différentes déclarations, le débat sur la constitution au Sénégal me paraît fondamental. Les brillants professeurs Aboubacar Gueye, Mohamedou Mouni Roussi, Ismaël Amadior Fall en ont parlé et on ne va pas vraiment y revenir. Mais ce qui nous manque foncièrement dans ce pays, c'est cette respiration démocratique qui permet de savoir qu'à échéance régulière, vous avez la possibilité de choisir vos leaders. Aujourd'hui, la proposition qu'on pourrait faire, c'est d'avoir un mandat, par exemple, de 5 ans. Je trouve que 4 ans, c'est trop peu. 7 ans, c'est un peu long. Mais avoir un mandat de 5 ans, renouvelable juste une fois. Cela permettrait, en 2012, on saura qu'on a des élections en 2012, en 2007, en 2022, en 2027, etc. Et que vous pourriez, dans ce cadre-là, enseigner à l'élève de l'école primaire, dans le cadre de son cours d'instruction civique, que toutes les années, terminant par 2 et par 7, verront l'organisation d'élections au Sénégal. Mieux, les prochaines élections seront organisées pour le premier tour, le 4e dimanche du mois de février. Deuxième tour, 3e dimanche du mois de mars. Ça donne 26 février, 18 mars. Si vous faites la projection, un pays qui a une constitution fiable, et si le Sénégal engage dans cette voie, nous devrions pouvoir, en termes de projection, dire aujourd'hui de façon claire que le dimanche 22 mars 2037, il y aura des élections au Sénégal. Que le dimanche 15 mars 2037, il y aura le deuxième tour au Sénégal. Comme tous ceux qui s'intéressent au pouvoir politique comprennent que les États-Unis organisent des élections tous les 4 ans, que ces 4 ans-là tombent toujours une année bissextile, et que cette année bissextile est toujours une année des Jeux Olympiques. C'est immuable, on le sait. Le jeune Américain sait que dans 38 ans, 40 ans, 50 ans, l'année bissextile va coïncider avec son année électorale. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire au Sénégal.
Absolument. Sanoumbaï, il y a aussi dans le débat, dans l'actualité de la semaine, cette affaire de mercenaires, où le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Macky Sall, a dit à la presse internationale qu'il y a plus de 400 mercenaires qui sont venus au Sénégal par-dessus. Le gouvernement a démenti cette information en disant que c'est une grosse farce. Comment comprenez-vous qu'au Sénégal aujourd'hui, qu'on puisse aborder ce débat de mercenaires?
Le Sénégal ne peut pas faire exception. Parce que quand on regarde ce problème, il y a deux possibilités, deux actes. La première, c'est une question de désinformation, d'intoxication. On a vu les élections modernes, maintenant, avec les États-Unis, on voit partout comment ça se passe. Dans ce cas-là, ce serait vraiment totalement irresponsable de ceux qui sont à l'origine de ça. Parce qu'ils font germer dans les têtes, dans les esprits, des choses qui n'existaient pas. Ils font mouvoir des peurs qui peuvent être destructrices. La deuxième chose, c'est que, il y a une réalité là-dedans. Mais s'il y a une réalité, ça confirmerait une réaction de peur et de panique et qui irait en droite ligne avec aussi ce dont on parle en disant d'un coup de téléphone de Karim Wade à Bourgi pour dire que l'armée française intervienne. Donc ce serait des réactions de peur et qui s'appuieraient sur une gestion totalement irresponsable. Je ne parle même pas de la corruption et tout ça, parce que la corruption s'attend à être quelque chose d'universel, ce qu'il faut condamner et combattre, c'est aussi dans les assises. Mais l'incompétence, alors, la peur panique, l'incompétence et tout ça, peuvent amener des gens aussi à prendre ce genre de décision-là. Mais là où il faut absolument être encore de nouveau positif, sans verser dans le nombrisme de l'exception sénégalaise, on n'en a pas assez dit, mais c'est la responsabilité des forces de sécurité. Et moi, en dépit des dérapages de Sangalkam, Malik Ba est mort, c'est un martyr, mais en dépit de ça, j'étais à la place Sobeto, j'ai vu les grattes lacrymogènes, mais franchement, les forces de sécurité se sont portées d'une manière tout à fait responsable. On n'a pas assisté à des morts, on n'a plus fini, on n'a pas assisté à des prisons, à des prises de prisonniers, à des tortures. Donc, on a des services de sécurité qui sont responsables. Jusqu'à preuve du contraire, si l'information s'avérait exacte, hein, nos services de sécurité, qu'il s'agit de l'armée, de la gendarmerie, de la police et des populations qui se sont mobilisées, parce qu'il y a une mobilisation unitaire là-dedans, derrière, qui est magnifique, d'ailleurs, et dans laquelle on devrait se projeter de nouveau, hein, pour parler comme Diouf. C'est bon de voir cette jeunesse-là, cette jeunesse que, avec cette conception de la politique, quoi, le long terme. Hein, cette jeunesse, ces populations, ces forces de sécurité sauront faire face à cette menace. Mais donc, où cette désinformation, intoxication, c'est totalement irresponsable, ou c'est la réalité, reposons-nous sur nos forces de sécurité et profitons-en pour dire qu'en dépit, de la tension, en dépit du nombre, en dépit de ce qui s'est passé ailleurs, nous avons à louer nos forces de sécurité de ce qu'ils ont fait, nonobstant maintenant ce qui s'est passé à Sangalkam.
Abdourahmane Diouf, au Sénégal, qu'on parle de mercenaires aujourd'hui dans cette situation-là, qu'on parle même de coup de fil que Kariwad aurait passé à Robert Bourgie pour demander l'intervention de l'armée française pour assurer sa propre sécurité à lui, est-ce qu'on n'est pas dans une situation très compliquée?
On est non seulement dans une situation très compliquée, mais nous jouons beaucoup à nous faire peur. Pour le moment, je n'arrive pas à savoir si c'est à raison ou à tort. Parce que dans la semaine de la mobilisation pour aller au jeudi le 23 juin, on a beaucoup parlé d'une possible intervention des militaires. Bon, déjà, ça a commencé avec les saltiguis, qui nous sortent l'idée selon laquelle les militaires pourraient prendre le pouvoir. Après, dans le débat politique réel, on dit qu'est-ce qui se passerait s'il y a des débordements, est-ce que les militaires ne pourraient pas prendre le pouvoir. On n'a jamais eu ce genre de débat vraiment au Sénégal, à part les événements de 1962-63 avec Mamadou Dia et Senghor. Après, maintenant, on nous parle des mercenaires. On nous a parlé du coup de fil du fils du président. J'ai entendu hier dans l'une des radios de la place la confirmation de Mme Christine Holzbauer de l'Express qui a confirmé le coup de fil. Ça veut dire qu'on est en train d'entamer un débat qui fait peur. Parce que les Sénégalais ne sont pas habitués à ce débat. Et ma génération a connu un moment très, très violent avec les événements de 89 avec la Mauritanie, c'est tout ce que nous savons. Mais si ça, ce n'était que le début de la guerre, mais bon Dieu, que Dieu nous préserve de la guerre et des mercenaires. Maintenant, ce qui est troublant dans cette histoire des mercenaires, c'est qu'on ne sait pas si l'information est crédible, mais en même temps, quelqu'un comme Macky Sall, je crois avoir compris que c'est venu de lui, d'après les journaux du jour, c'est quelqu'un quand même qui a eu à exercer des responsabilités à un niveau très élevé de l'administration sénégalaise, qui a des réseaux, qui peut avoir des informations. Est-ce que Macky, qui a l'ambition de diriger le Sénégal, pourrait jouer à nous faire peur au point de nous parler de 400 mercenaires qui entrent par la frontière sud? S'il donne cette information sans avoir vraiment les preuves, ce serait irresponsable. Et j'ose espérer que Macky Sall n'est pas quelqu'un de responsable. Le deuxième élément qu'il faut tenir en compte, c'est que nous sommes quand même sous une ceinture de feu. Il faut être réaliste. L'Afrique, le Sénégal reste l'un des pays stables en Afrique de l'Ouest. Les armes circulent, la drogue circule. Le blanchiment d'argent est devenu une réalité. On a un cocktail détonnant aux portes du Sénégal. Est-ce qu'il faudrait faire la méthode Coué, c'est-à-dire qu'on est un pays de pacifistes, il n'y aura jamais certaines choses chez nous, ou bien il faudrait être vigilant?
Mais il y a quand même le démenti du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Communication par rapport à cette information.
Je pense qu'il ne faut pas rêver pour avoir des confirmations officielles de ce genre de choses. Si des mercenaires devraient entrer pour bénéficier de l'onction du ministre de l'Intérieur, il viendrait peut-être par l'aéroport. Mais là, on est en train de parler d'infiltration, d'exfiltration, on est en train de parler de réseaux, toutes choses qui sont en dehors du débat classique, qui sont en dehors des réseaux classiques. Quand vous faites un coup d'état militaire, vous n'avez pas besoin de passer par la hiérarchie, vous n'avez pas besoin de convaincre le général. D'habitude, un sergent suffit. Mais je pense que autant nous ne devons pas continuer à nous faire peur sur ces questions, autant, aussi bien le gouvernement que l'opposition doit travailler à avoir un Sénégal gouvernant. Parce que si leur ambition est de gouverner le Sénégal, ils ne devraient pas, comme le disait Idrissa Seck l'autre jour, transformer ce pays en cendre. Parce que vous allez après régner sur des cendres. Donc le mieux est qu'on revienne à la raison. Si les déclarations de Macky Sall peuvent être fondées d'une façon ou d'une autre, au lieu d'être dans un débat politicien, je pense même que le ministre de l'Intérieur devrait l'approcher en toute citoyenneté, discuter pour voir qu'est-ce qu'il est encore possible de faire pour la sauvegarde des Sénégalais.
Oui, Sanou, on parle de mercenaires, on parle aussi d'églises incendiées à Dakar, ici, un peu partout. C'est quand même un climat de terreur qui semble s'installer dans ce pays-là.
Oui, et vraiment, c'est regrettable.
Et le Sénégal qui est connu comme étant un pays laïque.
Absolument, un pays laïque. Bon, quand on voit ce qui s'est passé, ce qui se passe au Nigeria avec les groupes islamiques, quand Non, ça ne fait pas partie de nous. Ce sont des dérapages, mais il ne fallait pas aussi non plus penser les miracles. Je veux dire, partout ça a été, on a eu les hooligans, on a eu les casseurs et tout ça. L'essentiel, c'est que ça soit maîtrisé. Et alors, franchement, gardons en tête une chose. C'est un moment extrêmement propice pour le Sénégal. Je viens de Londres. J'étais venu ici en plus de tas d'autres activités pour présenter un programme sur long terme de 10 milliards de dollars que des investisseurs voulaient investir. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Sénégal est perçu comme un point d'ancrage pour se projeter en Afrique de l'Ouest. Quand vous voyez les investissements directs étrangers, en fait, c'est l'Afrique de l'Ouest qui reçoit le moins. Il y a différentes raisons pour ça. On va pas, c'est pas le moment pour, c'est pas le but de cette émission. Mais toujours est-il que après ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, après la stabilité qui est projetée, parce qu'en fin de compte, quand j'ai vu le mémorandum sur lequel s'appuyait sur ce programme là, et quand je voyais quand même les potentiels d'instabilité qui existait au Sénégal, je dis mais ces Chinois, ces Américains, ils ne se rendent pas compte. Mais je me suis rendu compte aussi, ils avaient des informations qui étaient peut-être même beaucoup plus pointues que les miennes. Donc je ne pourrais pas être plus royal que le roi. Donc ce programme est là, le Sénégal est là. À partir d'ici, de son port, des infrastructures qu'on veut mettre sur place justement pour s'ouvrir à l'extérieur, les gens veulent faire du Sénégal le faisceau d'attraction pour amener la Mauritanie, des pays comme la Guinée, des pays comme le Niger, des pays comme le Burkina Faso. Donc, ne gâchons pas ça. Ne gâchons pas ça, c'est des moments extrêmement propices. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est pour te dire que le vide, l'irresponsabilité de ces gens-là, je suis venu avec cette proposition, c'était envoyé 2 mois avant, il n'y a pas eu de réponse, j'ai été envoyé en mission pour le suivre, la lettre n'avait même pas été lue. Hein, c'est à ce degré. Et quand de notre côté, ce que ces événements ont révélé, on croyait que, mais vraiment le niveau de dialogue, le niveau de décence est tellement supérieur. De grâce, ne gâchons pas ça. Il suffit simplement que Karim Wade soit écarté, que le président déclare qu'il ne se présentera pas et qu'on nomme un ministre de l'Intérieur indépendant qui va organiser des élections claires. Et maintenant, le peuple se devra de choisir. Là aussi, j'en reviens, je me répète, nous avons le privilège d'avoir une palette d'hommes d'État. Je veux dire, on a 4 ou 5 personnes présidentielles. Et le mieux, c'est que dans cet élan, d'ailleurs, tout se fasse dans un programme commun. Parce que, alors, c'est remarquable aussi, là, encore un autre atout, un autre actif, d'avoir ces conclusions des assises, qui sont des idées, mais sur lesquelles tout le monde se range. Alors, je vais dire à Diouf, bon, les assises, le programme de droite ou le programme de gauche, le programme libéral ou le programme pour le libéral. Ben, il y a, par exemple, des banques qui sont, prenons le cas des banques, qui ont tout le temps en sous-liquidité, mais qui ne prêtent pas à l'économie informelle. Bon, il y a des dispositions à prendre. Si c'est le libéral, c'est le laisser faire. laisser aller. Là, ça sera des directives. Prenons le cas de il y a la cherté de la vie.
Mais Sanoumbaï, Diouf, Sanoumbaï, avant d'aller dans ces banques et mettre en place tout ça, il faudrait quand même que le pays soit stable. Et aujourd'hui, si on voit que les gens attaquent des églises chez nous, dans notre pays, qui est considéré comme un pays laïque, est-ce qu'on va aller dans ces programmes?
Très bien. Avant de venir sur les églises, je voudrais rejoindre Sanou sur ce qu'il a dit. Le facteur de stabilité ou d'instabilité du Sénégal. La situation la plus grosse de danger pour le Sénégal en ce moment, c'est dans la façon dont on va résoudre la candidature du président Watt. Il faut pouvoir se le dire. On en est là. Si le président Abdoulaye Wade persiste à maintenir sa candidature, le Sénégal va fatalement vers le chaos. Parce que soit il y aura un forcing du moins, c'est la jurisprudence Paul Yao André de Côte d'Ivoire, au Conseil constitutionnel aux ordres, qui déclare la recevabilité de la candidature du président contre l'esprit et la lettre de la Constitution. La Constitution, elle est parfaitement claire.
Mais puisque le président dit que sa candidature est valable, et que si le Conseil constitutionnel doit décider de sa validité ou pas, est-ce que les Sénégalais ne doivent pas attendre ce que le Conseil dise?
Le problème, c'est que si les Sénégalais attendent ce que le Conseil dise, c'est la voie de la légalité. N'oublions pas que le Conseil va se prononcer à 29 jours du scrutin. Soit il y aura un forcing et il y aura un remake du 23 juin, parce que les Sénégalais n'accepteront pas que Abdoulaye Wade soit candidat, ou bien le Conseil constitutionnel invalide, j'ose l'espérer, même si ce n'est pas très probable. Et dans ce cas, c'est aussi une forme de chaos. Parce que pourquoi on en est là depuis longtemps? Parce que le président Wade est obsédé par son successeur. Interview du 1er mars 2007, quand le journaliste de RFI lui demande, il dit, je cite, j'espère que vous n'êtes pas cardiaque, mais parce que je vais vous dire que je ne serai pas candidat en 2012. Et il ajoute, j'ai un profil, mais je ne connais pas encore la personne. La seule chose que je sais, c'est qu'en tout état de cause, ça ne sera pas Idrissa. Donc, dès l'élection de Wade en 2007, la bataille pour la succession a commencé. Il n'est pas dans la disposition d'esprit de devoir partir sans pour autant régler le problème de sa succession. Et une invalidation de sa candidature à 29 jours des élections risquerait de plonger le Sénégal dans le chaos, tout comme une validation de sa candidature. Ce que je veux dire, c'est que le simple fait que le président Wade continue à déclarer sa candidature, c'est une situation grosse de danger pour le Sénégal. Et dans ces conditions, les investisseurs ne sont pas venus. Juste un mot sur ce qui s'est passé avec les églises. Je trouve que c'est une importante régression pour le Sénégal. Quand dans un pays, on enviait à établir une hiérarchie entre les croyances, il y a un problème. Même si nous étions 99,99% de musulmans, la croyance de l'athée, la croyance du musulman, la croyance du chrétien ont une égale valeur. Et il faudrait que les autorités du Sénégal, même si la situation actuellement est tendue, fassent revenir les citoyens à la raison. Et pour cela, justement, c'est là où il ne faut pas hésiter à sanctionner.
Ça n'en est pas la cette question bien précise.
Mais je veux dire, vraiment, je ne me fais pas de soucis à propos des dérapages religieux. Là, c'est arrivé, mais quand même, c'est ce pays qui a élu un président chrétien, alors que...
Pendant 20 ans.
Cinq ans. Nous le savons. Franchement, des dérapages, des hooligans, des casseurs, ce genre de choses, ça ne peut pas échapper. On n'a qu'à voir d'ailleurs la réaction globale. La réaction de tout le monde, de tous ceux qui ont condamné ça, c'est qu'on va les brûler des établissements publics. C'est des établissements à nous. Donc toi, tu vas avoir ta maison et tu vas brûler ta maison. Ça n'a pas de sens. Et l'autre, mais même si sa maison est volée, si avec de l'argent volé, mais bon, ta maison et tu vas brûler la maison d'autre. Non, ce n'est pas acceptable. Maintenant, revenons-en à cette candidature de Wade. Il faut toujours avoir un plan B de sortie. Wade s'appuie sur le fait, il avait dit je me présenterai pas. Il avait dit ceci.
Mais pour vous, quel doit le plan B?
Le plan B, c'est ce que je suis en train de venir là-dessus. Bon, écoutez, il dit qu'au moment où justement on changeait la constitution, il avait entamé son premier mandat, que la loi n'était pas rétroactive. Donnons-lui le bénéfice du doute. Bon, il présente sa candidature, c'est regardé par la constitution constitutionnelle. On dit ici que ce sont ces deux. Donnons-leur le bénéfice du doute. Et puis après, on a notre plan B. Allons-y. Donc, c'est parti au Conseil constitutionnel, c'est des hommes de main, ils accréditent sa candidature. C'est là où il faut préparer les jeunes et les esprits, car cela ne tient.
Et c'est le chaos.
Ça ne sera pas le chaos parce que lui-même qui juge qu'il n'aura pas que 25% des voix, dès l'instant qu'il n'y a pas de changement de constitution, dès l'instant que le deuxième tour qu'il voulait éviter, il aura lieu, on peut même envisager que lui, il n'aille pas au deuxième tour. Donc, je veux que les esprits se calment. Quelle que soit la situation, c'est le peuple qui gagnera parce que, comme on le dit, le Sénégal est pensé pour être des moutons, des agneaux, mais ils attendaient toujours l'échéance. Et c'est cette échéance, ils vont faire exactement comme ils ont fait en 2000.
Voilà, merci infiniment à mes invités. Le temps que nous est imparti est terminé. Merci à Abdourahmane Diouf, qui est expert en communication et des médias, aussi spécialiste des relations internationales. Merci aussi à Sanou Mbaye, qui est expert fiscal, aussi économiste, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'Afrique sauve l'Afrique ». Merci à Chérif Diop, qui était à la technique au micro de Sam Sambo Diop.
Ils ont participé et ils ont gagné.
Je m'appelle El Hadj Thierno Sall, qui est mon neveu là. Abdou Rachid Wahabi m'a gagné billet bi, mais dafa xawa touti, légui wa biskerem né il faut mo am ben accompagnant. Kon ma koy sante diko gërem. Abdou Rachid, lan nga xam ci biskerem?
Ma yuma dem école, sama papa mo may dëndal goûté biskerem.
Mangi tuddu Malin Yaye, mangi remercier wa biskerem wa ndax tay boyo bo mani ñoma ñëk duggal avion ndax bëb mo ci gagner moma ñëk neex surtout ma nak sama joueur bi nga xam mom la bëgg sama biir xol diga fekk ji
man la Babacar Ndaw gis ngeen Babacar Ndaw mi 200 rek la jënd biskerem am lim bëgg moy te yoonu triki bi
te biskerem dafa jégué bismillahir rahmanir rahim te lola tax ñu gën ci content.
Tentez votre chance jusqu'au 5 juillet.
Oh oui.
Padar est spécialement fabriqué pour rendre votre linge éclatant, propre et parfumé. Le pouvoir extra puissant de Madar facilite votre linge.